Chapitre 10. Dès qu'il fut sur la passerelle, Eddie sentit la peur combler ses espaces vides tels de l'eau froide. Il commença à se demander s'il n'avait pas commis une bourde hyper dangereuse. Vu de la terre ferme, le pont paraissait ne tanguer que légèrement. Une fois qu'il y eut bel et bien pris pied, il eut l'impression de se retrouver juché sur le balancier de la plus grande horloge du monde. Le mouvement était très lent, mais régulier, et l'amplitude des oscillations beaucoup plus longue qu'il ne l'avait supposé. Le revêtement de la passerelle était salement fissuré et penché de 10 degrés vers la gauche, au bas-mot. Ses pieds crissaient sur des amalgames lâches de béton poudreux et le grincement profond des caissons était constant. Au-delà du pont, les toits de la cité oscillaient sans hâte, d'avant en arrière, tel l'horizon artificiel du jeu vidéo le plus lent qu'on ait jamais vu. Au-dessus de leur tête, le vent grondait sans relâche dans les crampons tendus. En dessous, le sol s'inclinait en à pic jusqu'à la rive nord-ouest boueuse du fleuve. Eddie était à 9 mètres de hauteur, puis 18, puis 30. Il n'allait pas tarder à surplomber l'eau. À chacun de ses pas, le fauteuil battait contre sa jambe gauche. Une masse de fourrure se faufila entre ses pieds, et de la main droite, il agrippa comme un démon la rambarde mouillée, retenant à grand-peine un hurlement. Otté, trottinant, lui jeta au passage un bref regard, l'air de dire « Excuse-moi, je ne fais que passer. »«
Stupide bestiole !» siffla Eddie entre ses dents serrées.
S'il regardait en contrebas sans plaisir, il se rendit compte qu'il détestait plus encore observer les crampons qui, par quel miracle, maintenaient toujours câbles et ponts. Ils étaient rongés par la rouille et des nœuds de fil d'acier s'échappaient de la plupart d'entre eux, semblables à des houppettes de coton métallique. Eddie savait, grâce à son oncle Règle, qui avait travaillé en qualité de peintre sur les ponts, George Washington et Triborough, que crampons et câbles aériens étaient tissés de milliers de fils d'acier. Sur ce pont-là, la trame foutait le camp. Les crampons s'effilochaient littéralement, et par voie de conséquence, les fils cassaient.
Il a tenu jusqu'à maintenant, il tiendra bien encore un peu, pensa-t-il. Tu t'imagines que ce truc va tomber dans l'eau uniquement parce que tu marches dessus? Prétentieux, hein?
Cette pensée, cependant, ne lui fut d'aucun réconfort. Pour ce qu'il en savait, ils étaient peut-être les premiers à tenter la traversée depuis des décennies. Et le pont, somme toute, allait forcément s'effondrer un jour ou l'autre. Et à en juger par son aspect, ce jour était proche. Leur poids combiné risquait d'être la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Eddie heurta de sa tennis un gros bloc de béton et, pris de nausée mais incapable de détourner le regard, il le suivit des yeux tandis qu'il tombait à n'en plus finir, tournoyant sur lui-même. Il y eut un petit plouf minuscule quand il toucha le fleuve. Le vent qui fraîchissait soufflait en bourrasque, plaquant sa chemise contre sa peau en sueur. Le pont gémissait et oscillait. Eddie voulut ôter ses mains de la rambarde, mais elle semblait gelée dans une étreinte mortelle sur le métal piqueté. Il ferma les paupières un moment.
« Tu ne vas pas te paralyser ?»«
Non ! Je te l'interdis !»
S'il te faut regarder quelque chose, choisis un truc vieux, grand et moche.
Il rouvrit les yeux, les fixa sur le pistolero, obligea ses mains à relâcher leur étau et se remit en marche.